Créodyssée. Voyager et se perdre dans la création. Un podcast présenté par Géraldine Jojou et réalisé par Éric Blanc. Bienvenue à toutes et à tous dans Créodyssée, le podcast qui donne la parole aux artistes afin qu'ils nous dévoilent leurs secrets les plus intimes sur leur processus créatif. Alors non, rassurez-vous, les enceintes de votre appareil audio ne souffrent d'aucun défaut et Géraldine se porte bien. J'ai tout simplement piraté le micro de Créodyssée le temps d'un épisode avec la bénédiction de ma partenaire de podcast que je salue. Aujourd'hui, une question de vocabulaire, ou plutôt d'interprétation de vocabulaire, nous servira de fil conducteur. Qu'entend-on exactement par artiste professionnel et artiste amateur ? Plus exactement, qu'est-ce que ces deux statuts, aux contours parfois flous, impliquent-ils en termes de temps de travail, de moyens, de reconnaissance et de qualité ? Et la pratique d'un art en amateur est-elle forcément synonyme de moindre qualité ? Vous vous doutez bien que si je pose la question ainsi, c'est que j'ai déjà une idée de la réponse. Avec la démocratisation des outils de production, notamment pour la musique, puisqu'il sera question de cela aujourd'hui, n'importe quel artiste a la possibilité de créer et de diffuser son œuvre. Là où quelques années plus tôt, la location d'un studio, la recherche d'un label et l'accès au circuit de distribution apparaissaient comme autant d'obstacles, les nouvelles technologies apportent aujourd'hui facilité, rapidité et vecteur d'exposition. Mais cette liberté n'est pas sans conséquence, car une multitude d'artistes qui éclosent ainsi sont autant de proies fragiles dans une jungle où il est parfois difficile d'exister. Et puis produire de la musique, c'est encore un savoir-faire qui n'est pas donné à tout le monde, cela ne s'improvise pas, et comme pour tout le reste, cela s'apprend. Et oui, rappelons que la performance d'un outil ne vaut rien dans des mains ignorantes ou maladroites. Alors quand on a un travail alimentaire, une vie de famille et diverses obligations, mais avec l'ambition d'offrir une musique de qualité au plus grand nombre, comment s'organise-t-on? Comment apprend-on? Bref, comment fait-on? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre en compagnie de Samy Sarda et Eva Richard. Bonjour messieurs.
Bonjour, salut. Alors
Samy et Eva, alias Sierra Hotel, un duo de musique électro de Reims. Ladies and gentlemen, welcome on board. Alors Samy et Eva, on va pas se mentir, hein, dans la vie de tous les jours, on a l'habitude de se tutoyer, donc là, on va pas faire semblant, on va continuer. Bien que ça donnerait un petit côté France Inter pas dégueu, mais bon, voilà, on va faire comme ça. On a coutume de commencer tous nos entretiens par faire connaissance avec nos invités, et notamment dans votre cas, j'aimerais bien savoir d'où vous vient votre attrait pour la musique. Alors je ne sais pas qui veut commencer, j'aimerais savoir comment s'est construit votre oreille musicale quand vous étiez jeune. Eva ?
Moi, j'ai commencé la musique très tard, au final, aux alentours de la seconde, où je me suis mis à la guitare.
D'accord.
Avec des copains de promo, à l'époque, du coup, au lycée. Par contre, j'avais la chance d'avoir une grand-mère qui, elle, était très musicienne et qui me traînait un peu dans toutes ses bringues. Moi, j'allais avec mes potes, on faisait aussi quelques bringues. Beaucoup de jam, j'ai appris tout seul en autodidacte à l'époque.
Donc, ta grand-mère jouait d'un instrument ?
Ouais, le ukulélé tahitien, justement.
Le ukulélé
et de la guitare.
Ouais, d'accord. Okay.
Et
des chansons aussi, peut-être, elle chantait ?
Elle chante,
ouais.
J'aurais dû l'emmener.
Bah ouais, t'aurais dû.
Et du coup, voilà, elle m'a... Au final, à entendre chanter à Tahiti, on a cette culture de la musique.
Oui, parce que tu viens de Tahiti.
Voilà, ouais. C'est vrai qu'on peut préciser.
Et
on a cette culture de la musique, de la guitare, on jam beaucoup. Et donc, voilà, on a l'habitude d'être tous ensemble, certains avec une guitare, à chanter tous ensemble.
D'accord.
Jusqu'au bout de la nuit.
Oui.
Et donc voilà, je me suis mis à la guitare. C'était la vieille guitare de ma maman qu'elle n'utilisait pas.
D'accord.
Et à l'époque, il y avait Guitare Pro.
Ouais.
Avec les tablatures,
ouais.
Du coup,
ouais.
Voilà. Donc j'ai appris un peu tout seul comme ça, en autodidacte, à comprendre comment positionner ses doigts, comment marcher les accords, un peu tout ça, et à pratiquer à force.
Tu reproduisais ce que t'entendais, j'imagine.
Ouais, j'essayais.
Comme beaucoup de gens.
J'essayais, ouais, voilà. Ouais. Et c'est au début, c'était beaucoup, de accords chants.
Ouais.
Un peu tranquille, avec une frappe un peu basique au début, et la frappe évolue en fonction des jams qu'on faisait.
Ouais, t'avais déjà une oreille en fait, donc du coup, je pense que t'étais un peu une éponge.
Ça m'a beaucoup, ça s'est vite accumulé.
D'accord. Et... Ouais. Tu as pris des cours à un moment ?
Non, jamais.
Non, jamais.
Ouais.
D'accord.
à part des tutos okay. YouTube.
Oui, oui, oui. Voilà. Oui, oui, c'est vrai que c'est pratique. Ouais. Ouais, ouais.
Et après, voilà, c'était des objectifs de, attends, j'aimerais bien apprendre cette chanson. Donc, et après, autour de moi, j'avais des cousins qui faisaient de la guitare. J'ai un cousin qui, lui, a fait de la guitare électrique, qui était fan de Joe Satriani, Steve Vai et tout ça. Donc, il était très branché, un peu presque métal.
D'accord.
Et qui me faisait découvrir aussi d'autres sonorités, d'autres ouais. manières d'utiliser une guitare. Et...
Donc là, on est assez loin de l'électro. On y reviendra.
Ouais,
on
verra le... L'électro est venu très tard, ouais, finalement, ouais. dans mon cursus ouais, ouais. musical.
D'accord, ok. Ouais. Et donc toi, Samy, comment tu apprends la musique de ton côté ?
Donc moi, bah, c'est un peu pareil. C'est la guitare au début. Donc mon père qui jouait tout le temps de la guitare tous les soirs chez nous, comme ça, tranquillement. Moi, j'écoutais. Et c'est vraiment un jour en sixième où je me suis dit... Maintenant, tu veux pas m'apprendre à faire un accord? Et du coup, il a commencé. C'est parti comme ça. Et j'ai aussi, ouais, beaucoup de familles qui font de la musique. De la basse, didgeridoo, des percussions dans ma famille. Et voilà, sans jamais me sentir obligé de faire de la musique, j'en ai fait un peu naturellement. Et après, très tôt aussi, je me suis intéressé aux logiciels d'enregistrement et d'effets. Donc D'accord. ça, je commençais. Et j'ai vraiment commencé au collège. Donc, je comprenais rien à ce que je faisais. Mais voilà, très tôt, j'ai essayé de... C'était pas vraiment l'électro, mais de comprendre comment on enregistrait et comment on bidouillait les sons, en fait.
D'accord. Oui, il y avait des logiciels libres à l'époque
Ouais. Fruity Loops, c'était... Ah, oui. En tout cas, la version light était gratuite.
Oui, ça, t'as un ensemble de fonctions, ouais. puis après, tu en as d'autres si tu payes, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Principe, tu pouvais avoir accès à un logiciel quand même ouais. efficace.
Et pour commencer, c'est
pour
vraiment
commencer,
bien.
Pour commencer, c'était parfait.
Ouais. D'accord. Ok, ouais, donc des parcours initiaux un petit peu similaires
ouais.
pour tous les deux. Ouais, c'est marrant. Alors du coup, votre duo Sierra Hotel, quand est-ce que vous le commencez? À quelle période à peu près?
Ça, c'est la question difficile.
Celui-là, il a commencé 2017-2018.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Parce que c'était...
4-5 ans.
Ouais, ça doit être ça, fin 2017, je pense.
D'accord. Donc, et à cette époque, vous faites quoi? Vous faites déjà de l'électro ou pas? Ou vous aviez un but ou c'était juste
à l'époque,
deux potes qui font de la musique?
À l'époque, moi, j'étais sur la vague un peu YouTube.
Ouais.
Où du coup, je faisais déjà... Je m'étais mis à la MAO.
D'accord.
Et donc,
alors la MAO, je précise, c'est la musique assistée par ordinateur.
Voilà, c'est ça.
Les gens qui ne connaissent pas.
Et du coup, j'étais dans cette vague un peu YouTube où tu faisais ton morceau et après tu faisais un clip et après tu le mettais sur YouTube.
D'accord.
Donc je faisais des covers et en fait on s'était croisés même à ton arrivée à Reims, je me rappelle, ouais. un soir dans un bar, place du Forum, où Samy était tout nouvellement arrivé à Reims. Et moi, je cherchais à l'époque quelqu'un pour faire un groupe.
D'accord.
Et donc, Samy, j'apprends qu'il faisait de la guitare. Je disais, ben, vas-y, je garde tes coordonnées au cas où. Et sauf que, ben, le temps manquant, j'ai jamais eu le temps d'aller au bout de cette idée de groupe. Et Samy, entre-temps, est rentré dans un groupe du boulot. Et on s'est retrouvés beaucoup plus tard, ouais, peut-être un ou deux ans plus tard, où j'avais un projet de pareil une cover, mais je voulais que Samy fasse un coup de guitare dessus.
D'accord.
C'était sur Coldplay.
Ouais, non, c'est sur ouais. Coldplay, ouais. Adventure of a Lifetime. Et donc je lui dis ben ouais, ça te déchaufferait de faire le solo à la guitare, parce que moi j'y arrive pas, et éventuellement faire un petit truc. Et en fait ce morceau, il est un peu dérivé de la base qu'on avait du côté cover acoustique.
Ouais.
Et il est parti un peu en cover acoustique qui a avec une touche électro sur la fin.
D'accord.
Et
donc déjà une reprise, mais quand même avec la volonté de s'approprier le morceau et d'en
ouais,
faire quelque
ça, ouais.
chose à soi original.
Ouais, parce que même avant mes covers,
avec
c'était
une réflexion sur la ouais. ouais sur la structure.
Parce que quoi. Même mes covers avant, je faisais pas le truc copier-coller du morceau original. C'était vraiment.
Ouais, tu t'en emparais.
Voilà, je ouais. prenais, je faisais une ligne à la guitare, une ligne au piano, ma batterie à moi.
Thank you. Et la composition de morceaux originaux, c'est venu dans un deuxième temps ou
Oui, complètement, ouais.
Assez vite ou
On a beaucoup bossé sur ce remix, mais en fait, vu qu'on... Enfin, je dis remix parce que du coup, on essayait quand même de le changer.
Ouais.
Mais je crois que dès les... C'était quoi Dès les... On va dire dans les 4 premiers mois qu'on se voyait, on a tout de suite... on s'est dit, mais attends, et si on faisait notre musique aussi?
Ouais, c'est
si
ça.
Voilà.
Et on était là, ben... Est-ce qu'on partirait pas sur notre truc à nous, faire une petite prod d'un truc électro, parce que malgré qu'on ait chacun background musical, Samy faisait du rock à la guitare, ben on avait cet attrait pour l'électro,
d'accord,
qui nous motivait un peu, et en fait on s'est rendu compte sur cette cover remix qu'on pouvait faire un truc en commun, et donc on a commencé une première prod. Et qui était un remix.
Moi, je voulais savoir un truc, c'est que le traitement du son, l'enregistrement, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Il suffit pas de brancher des fils dans une table de mixage, d'appuyer sur un bouton et tout va bien. Et je crois que vous avez suivi une formation au lieu à Reims.
Ouais.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qu'est le lieu? C'est le nom de la structure. Hein. Et qu'est-ce que vous avez appris là-bas?
Ouais, bah le lieu c'est un endroit superbe, je peux commencer à en parler. Déjà, il y a des artistes dont un Boréal qu'on a rencontré là-bas et qui vivent là-bas. Donc déjà ça accueille des artistes qui veulent devenir intermittents du spectacle en général. D'accord. Donc je crois qu'ils ont 5 ou 6 places à peu près là-bas, et en plus du coup, ils en profitent pour donner des cours. Donc il y a batterie, piano, je crois qu'il y a un peu de tout en fait.
Il y a du chant.
Il y a du chant, il y a même de la danse.
Je crois. Ils font de l'éveil musical aussi pour les enfants. Ouais,
l'éveil musical et tout. Donc vraiment, ça veut promouvoir un peu la musique localement. C'est un peu couplé à la cartonnerie aussi, qui a pour mission un peu globale aussi, j'ai l'impression, de promouvoir la musique locale. Mais en tout cas, le lieu, c'est plus vraiment des cours et des lieux. Enfin, le studio, pour le coup, est très bien. Voilà, c'est
une petite salle de concert. D'accord. Aussi.
Et donc là, vous avez pu rencontrer quelqu'un qui vous a initié voilà. Au traitement du son.
On était allé à la soirée d'ouverture du lieu.
Ah oui.
Et d'accord. On avait rencontré du coup la directrice.
D'accord.
Qui s'appelle Mila Marina, qui est très connue.
Oui, bien sûr. Oui.
Qui est harpiste. Et on lui a demandé, voilà, ben nous, on aimerait faire de prendre des cours de MAO. Elle nous a dit, bon, ok, je vous dirige vers Matteo, qui est du coup Boréal. Matteo Caburet, et donc elle nous a donné le contact, et on l'a contacté, et on lui a dit, ben voilà, salut, nous, on aimerait faire des cours de MAO. Il nous a demandé, ok, est-ce que vous êtes débutant, est-ce que... On lui a dit, ben, on ne pense pas être débutant, ça fait un bout de temps qu'on en fait, mais il nous manque quelque chose pour avoir un truc qualitatif au niveau du son, pour toute la partie mastering, parce que ben, il nous manque des billes, quoi. Il nous a dit, ok, ben, venez avec votre projet, et on en discute.
Ouais. Ouais, donc vous arriviez déjà avec quelque chose de très précis en tête, conscient de vos lacunes et vraiment savoir ce que vous vouliez en faire.
C'est
d'accord.
Ça.
Et pendant combien de temps à peu près ça a duré? Combien de séances
À un moment, on faisait une séance par mois, il me semble.
Ouais.
Donc ça a duré un moment, même plusieurs par an. Enfin, je pense qu'on a en tout, on a facilement une quinzaine de séances avec lui, je dirais.
Ouais.
Ouais.
Facile.
Bah après, c'était des grosses séances, donc ça représente un bon bout de temps.
Deux, trois heures par séance, où du coup, on venait avec le projet. Donc le premier projet, c'était un remix de Linon. Et en fait, on avait une petite base, et pareil, sur la structure et tout, on était un peu perdus, et il nous a un peu reguidés, orientés vers des choses qui marchent bien. Et après, sur toute la partie mastering... ben tout ce qui est égaliser chaque piste, le panning,
d'accord,
et le mastering final aussi, qui est aussi important.
Oui, bien sûr.
Parce qu'en gros, la question, c'était comment est-ce qu'on fait pour sonner aussi bien que ce qu'on entend sur Deezer ou à la radio, ou
ce qui va être la question centrale des
ça
parties.
Ça rejoint bien la question centrale. Et ce que je voudrais dire, c'est que du coup, lui qui avait vraiment le côté pro pour le coup, il joue dans plein de groupes et tout. Direct, quand il a entendu certaines de nos pistes, donc pas une piste par exemple, juste le chant ou juste la batterie, il entendait directement des trucs où il y avait des grosses erreurs.
Ah oui.
Et donc ça, c'était intéressant par rapport à nous, le côté amateur, surtout encore plus à l'époque. Lui, il a directement repéré des grosses erreurs qu'on avait. Parce qu'après, Dans la musique, on dit il n'y a pas vraiment d'erreur, tout est un choix. Sauf que là, pour le coup, on peut dire que c'était vraiment des erreurs. Et ce côté pro qui nous a amené, c'était vraiment des bases, je dirais, ou des effets go-to, quoi, où il faut toujours aller chercher ça, et c'est un peu la recette, même si on en dévie toujours un peu. Et lui, il nous a vachement aidé sur ça, quoi.
Alors on va commencer par le volet le moins créatif entre guillemets de vos activités. Alors je mets des guillemets parce que j'aimerais bien justement qu'on brise quelques clichés sur le DJing, puisqu'il s'agit du DJing. Sur cette activité en tant que telle, et on précisera votre activité à vous dans un deuxième temps, j'aimerais bien savoir en quoi ça consiste. Parce que pour le grand public, les DJ, c'est des gens qui ont des musiques enregistrées, qui appuient sur un bouton et qui font danser les gens. Mais j'imagine que c'est un peu plus compliqué que ça, ou ça peut être un peu plus compliqué que ça, et voilà. Donc, le DJ, par rapport à ces enregistrements, quelle est sa plus-value ?
On va dire que je pense qu'on peut, différencier les DJ de boîte et les DJ un peu plus underground pour des trucs style Tomorrowland ou des trucs comme ça, parce que en général, le DJ de boîte, ce qu'il veut, c'est faire danser les gens. Et je me rappelle à l'époque où on s'était mis, où on avait créé ce duo DJing, avoir envoyé un message à Samy, on était en boîte à Reims, et je devenais fou parce qu'en fait le DJ, alors il était très fort parce qu'il mettait toujours les bonnes musiques pour que les gens restent sur scène, mais en fait il jouait 1 minute 30 de chaque chanson. Et je devenais dingue parce qu'en fait ils appellent ça les mix de drop, où en gros en fait il laisse passer un couplet, un refrain, et au moment où ça va repartir, hop, il rechange de chanson, et c'est très gourmand en énergie, j'imagine, parce qu'en fait c'est toutes les minutes 30, il faut avoir une idée de ce qu'on va passer ensuite pour le public.
D'accord, mais est-ce que par exemple le DJ, il peut avoir un rôle à jouer sur la structure des morceaux même, sur une façon d'enchaîner les morceaux qui soit peu artistique, un peu travaillé, est-ce qu'il peut intégrer des effets de manière à pas forcément rendre les morceaux méconnaissables, mais au moins se les approprier énormément? Est-ce qu'on peut faire ça en temps réel?
Pour le coup, on peut, ouais, ça du coup c'est l'autre partie des DJ, à mon sens, où ben comme tu dis, on peut rajouter des effets, on peut mettre des boucles pour que le morceau qu'on pensait être le morceau en fait soit différent en live.
D'accord. Oui, c'est approprié voilà. Vraiment, oui. Ouais.
Et même sur des trucs plus poussés, on peut même, il y en a qui rajoutent des samples en même temps que le morceau joue. Ou moi, ce que j'aimais bien faire, c'était pendant qu'un morceau jouait, c'était ce que j'appelais annoncer le suivant. Et du coup, pendant que le morceau joue, en plein milieu, je balance un morceau de voix ou un morceau de très spécifique du
très
morceau suivant, voilà,
ouais.
Pour que les gens se disent, ah ben tiens, est-ce que c'est, il va passer ça, alors que d'où ce son vient. Et en fait, quand le son vient, les gens sont préparés naturellement.
Ah, super. Ouais, d'accord, ok. Et donc vous, Sirotel, donc vous faites régulièrement des concerts dans différents lieux. Il y a quelque chose qu'on remarque tout de suite, c'est la présence d'une guitare. Voilà. Samy, tu joues de la guitare dans des séances de DJing, et donc je veux savoir déjà comment t'es venue l'idée.
Alors justement, quand je disais que j'avais appris la musique par la guitare et le désir aussi de bidouiller les sons, très vite en fait j'ai voulu improviser à la guitare. Ça a été, je sais pas, c'est vraiment venu. Je me suis dit, j'ai pas envie de jouer que des accords, des chansons, j'ai envie de faire à ma sauce. Et donc en fait, petit, à un moment, ce que j'ai commencé à faire, c'était dès le collège, c'est que je mettais la radio et je jouais dessus.
Ah oui, oui.
Mais vraiment, alors ça ressemblait à rien. Mais...
Non mais il faut apprendre.
Mais voilà, il faut apprendre.
sans se tromper, on n'apprend pas.
Et du coup, c'était vraiment mon délire. J'avais envie d'accompagner, de pouvoir en fait accompagner une musique sans avoir besoin d'apprendre quoi que ce soit en amont. Ça, je trouvais ça génial. J'ai toujours trouvé ça incroyable que les gens puissent juste jouer comme ça. Donc ce côté-là, après, c'est vrai que c'est ce qui me plaît beaucoup aussi dans le duo DJing, c'est que dès qu'une musique m'inspire, et du coup on s'arrange un peu pour qu'elle m'inspire globalement toute, tout ce qui va passer, j'essaye d'introduire des riffs et d'accompagner chaque musique en fait.
D'accord. Et du coup, comment tu choisis de te placer dans ces morceaux ? Est-ce que tu cherches à te placer plutôt en avant, plutôt en retrait, en termes de volume, en termes d'effet ? Est-ce que tu recherches quelque chose de visuel aussi ? Parce qu'on s'attend pas à avoir un guitariste dans une séance de DJing.
C'est une très bonne question et je pense que c'est le plus dur en fait, le placement de l'instrument live dans le set. C'est vachement dur. De manière générale, moi j'aime bien juste me fondre dans le morceau et vraiment l'accompagner sans faire un solo, au sens vraiment solo classique de guitare, sauf justement dans certaines chansons, et avec l'électro ça marche bien, et le soir quand il y a un petit peu de... tout le monde est un peu chaud, et qu'il y a vraiment une bonne ambiance, là, pour le coup, j'aime bien prendre le pas, et venir en avant de la scène, et balancer un gros solo de guitare.
Et souvent on s'entend, et je lui dis, vas-y... On se regarde et il me dit ouais et je suis et même moi en fait il me chauffe et du coup je le regarde et je lui fais vas-y envoie un gros solo et là moi je coupe un peu quelques fréquences pour lui laisser la place et du coup bam il envoie un gros solo et on est tous les deux grand sourire tout content de ce qu'on fait et après il me regarde c'est bon j'ai fini je remets le son et...
D'accord. Ouais. Alors est-ce que vous avez d'autres instruments que la guitare mais du coup peut-être des instruments électroniques?
Pas encore,
c'est un projet. Ou... D'accord, ok.
Il y a une époque où on avait testé avec un mini clavier maître une partie synthé qui marchait pas mal, mais pareil, qui demande aussi beaucoup de temps. En fait, on va dire que l'avantage et le désavantage de notre set, c'est que la plupart du temps, c'est assez improvisé. Du coup, on joue un morceau et on lit le public, on se dit « Ah tiens, ça pourrait être sympa de jouer ça ensuite. » Et donc, en fait... on n'a pas le temps de se dire je laisse ça jouer et je joue mon synthé à côté parce que du coup on perd quand même le côté plus-value de mettre des effets de jouer avec le morceau qui est en train de jouer
d'accord
sur le moment quoi.
Et est-ce que vous avez comment on va appeler ça, est-ce que vous avez une répartition des tâches? Alors je dis un truc au hasard, est-ce qu'il y en a un qui va être plutôt axé sur les ajouts rythmiques, d'autres harmoniques
tu veux dire donc vraiment dans
pendant le set live.
Oui, on a quand même une répartition. On a essayé un peu beaucoup de configurations. On a même essayé le vraiment double DJing où chacun avait ses platines, donc deux platines chacun.
D'accord.
Mais là, ce qui marche vraiment bien, c'est plutôt le côté Eva qui va assurer le côté DJ principal, on va dire, stable.
Ouais.
Stabilité. Et moi, je vais vraiment chercher à venir un peu insister sur certaines parties du morceau, rajouter des riffs. Et potentiellement même des rythmes parce qu'on utilise des, comme tu dis, des synthés, des drum machines, voilà.
On a fait un test fin août sur du coup un set live mais qui était pas du DJing où en gros on avait une sorte de lanceur de sample avec tout arrangé avec une ligne de basse, une ligne de piano, une ligne de synthé, tout ça. Et du coup c'était presque de la création en live.
D'accord. Ouais.
Avec Samy qui mixait qui faisait des riffs de guitare par-dessus et à côté on avait aussi une boîte à rythme, on avait aussi un synthé et en fait on jouait un peu avec tout ça.
En fait, on essaye vraiment, pour dire ça simplement, peut-être de s'approcher plus de la création live que du DJing.
D'accord.
Actuellement.
Ouais, du coup, alors avec une part de préparation
préparation.
Et une part d'improvisation sur le moment.
Voilà. Ouais.
OK. Cet été, vous avez eu une expérience assez rigolote au Wake Park de Wari, donc entre Reims et Épernay, il y a un plan d'eau pour faire du wakeboard et là vous avez eu l'occasion de jouer pour une journée spéciale dans des conditions un peu particulières. Alors j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu, parce que c'est assez rigolo, je trouve.
Ouais, c'est vrai que ça, c'était assez exceptionnel, mais on a eu deux, trois occasions de faire des trucs assez exceptionnels au niveau du lieu et tout. Et donc là, en fait, le délire, c'était vraiment d'installer une scène sur l'eau, donc vraiment au milieu du lac, parce que c'est un lac sur lequel les gens font du wakeboard. Et donc... déjà niveau logistique, on a amené tout le matos en bateau, un petit bateau, donc je vous laisse imaginer. Les câbles, parce qu'on repiquait aussi le son pour qu'il arrive à la terrasse, donc qui était sur terre ferme, quoi.
Ouais, qui est au moins à 50 à 100 mètres.
Voilà, c'est ça. Il y avait un câble de 100 mètres qu'un DJ nous a amené. Donc Donc voilà, je vous laisse imaginer la logistique, mais par contre, c'était incroyable. En plus, il a fait beau et on était vraiment au milieu des gens qui tournaient sur leur wake et on pouvait jouer notre musique, se faire plaisir sans problème, pas de gens bourrés qui venaient nous accoster non plus. Forcément, on était loin.
C'était assez insolite et épique comme expérience de jouer au milieu du lac avec les gens qui tournent. Et en plus, pour ce projet-là, on avait ce projet de faire de la création live, du coup, avec le lanceur de sample. Et on s'était dit, ben vas-y, on se chauffe, on se donne une deadline pour préparer ça, avec tel son, mais il faut pas qu'on aille trop loin non plus. Et après, il y a eu toute la partie un peu préparation, c'est l'organisation du set, un peu entre guillemets, l'énergie qu'on voulait amener, sans forcément partir d'un truc un peu chill et monter très fort à la fin. Ce qu'on aime bien faire, c'est souvent commencer doucement pour que les gens se mettent en ambiance, monter un peu, redescendre et pour finir un peu en apothéose sur la fin.
Non, on peut parler de l'apothéose parce que du coup, cette plateforme, donc de nuit, c'était vers minuit d'ailleurs, je crois.
Ouais.
En fait, on l'a rapprochée du bord, mais pendant que
nos
collègues à nous, DJ, jouaient.
À côté du DJing, vous composez de la musique, vous l'enregistrez et vous la diffusez. Donc on va essayer maintenant de comprendre comment vous procédez, parce que c'est vraiment le cœur du sujet qu'on aime bien aborder dans Créodyssée. Alors d'abord, un morceau de musique, ça naît de quoi? Définissez l'étincelle, s'il vous plaît.
Vous avez 4 heures.
Vous avez 4 heures. Ça peut naître d'une...
Alors est-ce que ça vient de l'un comme l'autre?
Je pense que sur toutes tout ce qui est création, les musiques originales qu'on a composées, je dirais peut-être 50-50, mais j'aime bien dire que Samy, il a la fibre créative, du coup.
D'accord.
Il trouve facilement des accords ou des trucs comme ça, et moi, c'est plus genre... j'ai entendu un sample ou j'ai entendu une suite d'accords qui me plaît, je la modifie et après, fort de ça.
Donc une fois que vous avez... Ah, tu voulais peut-être dire un truc.
Juste ce qui peut être intéressant, c'est qu'au final, ça vient jamais de nous deux en même temps pour l'étincelle. Ouais. Ça, je pense, enfin, je sais pas s'il y en a qui arrivent, mais moi, je trouve ça vachement plus facile de progresser après à deux. Mais c'est vrai que, comme tu dis, l'étincelle créative, je trouve que ça vient vraiment d'une personne au début.
D'accord.
Ouais. Ouais.
Une fois que tu as l'idée... Comment tu t'en empares? Quel outil tu vas utiliser pour la développer? Parce qu'une fois qu'on a une idée, on n'a pas grand-chose. Mais
oui, c'est vrai. Ouais. Une idée, c'est pas grand-chose, comme tu dis.
Avec tout mon respect. Hein.
Mais du coup, moi, je dirais que c'est là où on a des rôles un peu différents. C'est que moi, j'aime bien prendre une idée et partir dans tous les sens. Donc, quand je dis tous les sens, c'est vraiment essayer de mettre des accords dessus. Pourquoi pas juste de l'enregistrer et de la rejouer plus vite, donc ça plus aigu. Enfin, toutes les techniques qui existent, quoi, où j'aime bien bidouiller. Et sauf que moi, je pars vraiment dans tous les sens. Ça peut être aussi un inconvénient. Mais voilà, moi, j'essaye vraiment de la triturer comme on imagine triturer une pâte à modeler ou n'importe quoi, jusqu'à ce que ça ressemble à quelque chose, quoi.
D'accord.
Voilà.
Okay. Et alors, du coup, quand vous avez cette idée, donc tout seul, on va dire, on va partir du cas où vous avez cette idée tout seul, à partir de quel moment vous la soumettez à l'autre? Est-ce que c'est déjà quand il y a quelque chose de déjà bien avancé, peut-être même déjà avec une structure de morceau, ou est-ce que vous préférez laisser de la place au duo pour pouvoir s'exprimer à deux?
Bah, il y a eu un peu de tout.
Ouais.
Il y a eu un peu de tout. Ça dépend surtout. Je pense que ça rejoint le sujet de base, c'est la différence amateur-pro. En fait, ça dépend du temps qu'on a.
D'accord. On y reviendra après, mais
voilà,
oui,
Du coup, c'est Samy, à un moment, il avait un peu plus de temps libre, et du coup, il me disait, attends, j'ai fait un petit projet, tire à voir, et du coup, moi, dès que j'ai le temps, j'écoute, je fais, oh, vas-y, c'est trop bien, et c'est souvent des petits extraits de 30 secondes, une petite structure qu'il a commencé.
D'accord.
Et on se dit, vas-y, ça te dit qu'on essaie de bosser sur ça, et voilà, et que, comme je disais, Samy, il a plus la partie créative. Moi, souvent, il me faut un truc un peu plus structuré pour que j'ose le présenter. pour que ça ait un semblant de mélodie, quoi.
D'accord, ok.
Sur ouais, notre premier EP, par exemple, il y a Drive, qu'on avait... où pour le coup, ben, c'est, pour une fois, c'était moi qui avais fait un peu le début. Et après, on l'a bossé à deux, quoi.
D'accord. Donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on a abordé tout à l'heure pour la partie des jeans, il y a quand même un semblant de répartition des tâches, quoi. On va peut-être pas dire jusqu'à une spécialisation l'un et de l'autre, non. Mais vous êtes quand même une sensibilité un peu différente sur des aspects différents de la création.
Ouais. D'accord. Moi, je dirais que toi, Eva, t'es quand même bien plus performant au milieu du processus, ouais. Je pense, que moi.
Sur toute la partie peu structure et genre mood un peu du morceau. Et là où Samy, lui, vient ajouter ce côté mélodique, ce côté un peu plus joyeux qui vient sonner dans le morceau, quoi.
Et alors, quand vous avez des moments d'impasse, parce que j'imagine qu'il y a...
Ah, ça.
la création n'est pas un long fleuve tranquille. Comment vous les gérez? Tu disais, Samy, quand tu crées, tu vas chercher plein d'idées dans tous les sens. Ouais. Est-ce que ça peut être une façon de gérer les impasses?
Est-ce que
vous avez d'autres moyens?
Ouais, je dirais que... La majeure partie du temps, quand on a une impasse sur un morceau, au final, ce qu'on finit par faire, c'est le reprendre de zéro.
Ah oui.
Ouais. Mmh. Et ça, bah, par exemple, un de nos morceaux, Iceland, je pense qu'on l'a repris plus d'une dizaine de fois, ouais, de zéro.
Bah, donc, je pense que si tu regardes sur les sauvegardes, il doit y avoir 50 versions du morceau.
D'accord. et ouais, parce que, en fait, ça nous arrive plusieurs fois de nous retrouver complètement coincés, comme tu dis, Eric. Et du coup, c'est vrai que. Quand on n'est pas satisfait de la qualité et de l'ambiance générale du morceau, il y a un moment où... Enfin, en tout cas, nous, on n'arrive pas à changer juste ce qu'il faut, deux, trois trucs. On le reprend de zéro. Ouais. On reprend piste par piste.
On défait le Lego et on reconstruit.
Ouais,
voilà.
C'est ça. Quoi. Ouais, ouais, on se dit, si tu prends l'image du Lego, c'est à un moment donné, tu veux mettre la pièce et tu fais, mais... En fait, je peux pas la mettre, la pièce.
Voilà, c'est ça. J'ai de bonnes briques, mais il faut trouver.
J'ai dû décaler un truc quelque part. Et en fait, c'est vrai, on reprend du début. On dit, bah attends, viens, on réécoute ce début. Et ben clairement sur notre dernier morceau qu'on a sorti il y a 2-3 semaines là, ben c'était viens on l'écoute du début et qu'est-ce qui manque. Et du coup on écoute et tain, là ça serait bien de rajouter un riser. Est-ce qu'on rajouterait pas une petite voix là? Tain, là tu trouves pas que le piano il est un peu plat choses comme ça et en fait je pense que ça devient du coup un cercle vertueux. Et du coup, le morceau sonnant mieux, ça amène tout le reste de la structure.
Quoi. Et vous avez beaucoup de pertes ou finalement, vous arrivez à recycler les mauvaises idées en bon.
Je dirais qu'on perd beaucoup quand même. En fait, on a plus tendance, nous, dans notre création, à en mettre trop, je pense, que pas assez, d'instruments et de pistes en général. Du coup, des fois, juste... Comme tu dis, supprimer une ou deux pistes complètement, des fois, ça aide à repartir.
Ou même des morceaux, enfin, que vous avez complètement abandonnés. Vous en avez eu des partaient d'une bonne idée à la place. Et puis à un moment, on n'arrive pas à avancer, j'imagine.
Je ne sais pas s'ils sont abandonnés, mais pour l'instant, ils sont sur la touche.
Ouais.
Pour répondre un peu à la question de qu'est-ce qui se passe au moment d'une impasse, des fois, on fait un autre morceau.
Voilà. c'est complètement ça.
Je trouve qu'il y a ça aussi,
Alors, une fois que, on va parler maintenant de la finalisation du morceau, une fois que vous êtes arrivé à la fin d'un titre, alors déjà, quand est-ce que vous décidez que le morceau est fini? Est-ce que vous avez un critère pour ça? Alors, moi, j'aime bien rappeler, j'avais lu une interview de Philippe Djian, l'auteur de romans et de chansons, Philippe Djian. Il dit, lui, il finit un roman quand il en a ras-le-bol. En fait, à partir du moment où il ne veut plus travailler dessus, il estime qu'il est terminé. Alors, c'est juste pour la petite parenthèse, j'aime beaucoup cette façon de voir les choses.
C'est pas faux, hein.
Et alors, vous, comment vous décidez?
Il y a un côté très vrai là-dedans quand même. Au bout d'un moment, souvent quand il sort, on a limite pas envie d'écouter.
Il est sorti, mais c'est vrai que sur les morceaux, souvent c'est bon. on arrive à la fin du morceau, on se regarde. Bon, il est bien là, non? Ouais. Et ouais. Moi, je pense qu'on y reviendra peut-être plus tard sur la partie mastering. Mm-hmm. Mais en gros, on a fini la structure du morceau. On est content de comment l'énergie du morceau est faite. Et après, on passe sur toute la partie mixing et mastering pour, tel un diamant, venir le tailler pour qu'il soit vraiment parfait.
Alors, j'aimerais bien qu'on fasse juste une petite parenthèse technique parce que j'espère que ça intéressera les gens. Mm-hmm. Tu parles de mixing et de mastering. Est-ce que vous pouvez expliquer, pour des gens qui ne connaîtraient pas ces parties de la production musicale, qu'est-ce que ça veut dire?
Très simplement, on peut dire que le mixing, c'est vraiment prendre piste par piste et s'occuper donc d'un instrument globalement à la fois et le caler son volume, on va dire très basiquement, et ses effets. Et après, le mastering, ça va vraiment être prendre la piste finale avec tout ça, donc tout le mixing qui est fait en amont, et donc se servir juste de la piste finale de la chanson et l'améliorer avec plein de techniques.
D'accord, voilà. C'est très clair, merci. Ouais. Voilà, c'est des termes qu'on entend assez souvent, on entend l'album de Intel est ressorti avec un nouveau mastering, mais c'est des termes qui ne sont jamais expliqués.
C'est vrai que c'est important, quelque chose qu'on entend, mais on n'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière.
Exactement, ouais. Et il y a même des ingénieurs du son qui sont spécialisés que sur mastering.
c'est pas pour rien.
Ouais. Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant de la diffusion de votre musique. On peut écouter vos titres sur toutes les plateformes de streaming. Allez, j'en donne deux au hasard, Deezer et Spotify. Voilà, comme ça, la concurrence est bien représentée. Vous avez un premier EP qui est sorti en 2021 et qui s'appelle Journey. Comment vous avez procédé pour ça?
Tu parles vraiment la partie...
Ouais, c'est-à-dire qu'un musicien qui a des morceaux enregistrés, comment il fait pour mettre ses morceaux en ligne?
C'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question, parce qu'il y avait tout de suite l'histoire du label qui est venu. On se demandait si donc c'était obligatoire, tout ça. Et au final, ce qu'on...
On a fait le tour de tous les distributeurs en ligne. Mmh. Et donc, on a comparé un peu les offres qu'ils nous proposaient, parce que souvent, ils te prennent des commissions. Ou pareil, l'EP, pour le sortir, pour le diffuser, c'est un certain prix. Donc, en fonction du distributeur, en fonction des revenus que tu veux, tu fais un peu le tour de tout ce dont tu as besoin, et on a choisi iMusician, qui est français.
D'accord.
Et qui avait de bons retours, et pour le prix qu'on a payé, diffusé sur toutes les plateformes, genre tout ce qui était réseaux sociaux. Et ça nous a permis aussi, sur la partie mastering, on y revient toujours, c'est que on a appris que les plateformes avaient toutes une limite de volume auquel il fallait s'accorder, parce qu'en fait, sinon, t'es pénalisé et ton morceau tel que tu l'entends en studio...
Donc, même à ce stade, il y a des connaissances techniques à acquérir pour que la musique qu'on a produite soit pas...
C'est ça, d'où l'importance du mastering.
Dégradé, quoi.
Parce que sinon, en fait, tu veux t'es content de ce que tu entends en studio. Ouais. Et en fait, si tu le publies un peu n'importe comment, tu te fais pénaliser. Et en fait, il y a un risque à ce que ton EP ou ton morceau ne sonne pas du tout pareil. Quoi.
D'accord. Et globalement, cette phase de diffusion, vous l'avez trouvée plutôt simple? Enfin, ce genre de site est plutôt bien fait pour des données initiées ou...
C'est un peu les deux, parce que finalement, c'est assez bien fait comme maintenant les sites le sont. Mais comme on vient de dire, si on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants,
il y a des pièges,
on finit par tomber dans un piège, et donc ça va très vite, mais au final, il faut avoir un bon rendu aussi derrière.
D'accord. Et donc, ils offrent des retours possibles sur la quantité d'écoute ou en termes de réseau social, il y a des choses comme ça un petit peu.
On a des statistiques assez intéressantes.
Au début, on avait des statistiques un peu avancées. Bon, maintenant, c'est devenu payant.
Ouais.
Mais on a quand même le nombre d'écoutes par mois.
D'accord.
Tous les mois, du coup, on reçoit un rapport d'écoute par morceau ou par album. Et si tu payes pour les statistiques avancées, t'as même les pays qui écoutent, les plateformes, la tranche d'âge.
D'accord. Ok. Ouais. Donc ça peut être intéressant peut-être pour un stade du genre semi-professionnalisation.
Ouais,
peut-être.
À mon avis,
D'accord. Est-ce que vous jouez vos compositions en live?
On les a joués en mode DJ, du coup, sur les platines. On les a déjà passés en soirée et on a déjà eu on a des bons retours en général. Mais c'est vrai que une des premières bases qu'on a commencé, c'était de pouvoir jouer les trucs en live. Sauf qu'en fait, quelquefois, on part tellement en live sur la production que le jouer en live devient un peu plus technique. Mais avec le nouveau système qu'on a fait fin août, avec le lanceur de sample, il y a peut-être moyen, à mon avis, de...
D'accord, ok. Et alors, je crois, vous n'avez pas édité de CD. Vous avez fait ce choix ou vous vous êtes posé la question? Alors, c'est vrai que le CD, ça devient un objet un petit peu du passé. Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit là-dessus?
Bah après, moi, je me garde l'idée de pourquoi pas un jour éditer des CD. Mais c'est vrai que dans un premier temps, on voulait juste diffuser notre musique. Et c'est vrai qu'actuellement, le plus facile, c'est vraiment les plateformes de streaming. D'accord. Et comme j'ai l'impression que tout le monde les utilise maintenant.
Parce qu'après, je me dis aussi, le CD, ça peut être un espèce d'outil promotionnel à l'issue d'un concert, justement.
Nous,
ces gens apprécient les morceaux, les t-shirts. Venez écouter nos t-shirts.
Mais c'est vrai qu'en plus, par rapport au côté de diffusion en ligne, avant de passer par le distributeur et tout ça, on était passé par le truc un peu standard que tout artiste un peu indépendant utilise, c'était SoundCloud.
Ah oui.
Où du coup, voilà, tu publies ton morceau. T'as pas vraiment de limite, t'as pas vraiment de barrière, et en fait, du coup, voilà, c'est un peu écouté aléatoirement. On n'a pas fait plus d'efforts que ça, c'était vraiment plus pour nous, parce qu'en fait, en général, les gens nous demandent, on peut vous écouter ce que vous faites.
D'accord, oui, ça fait un premier pas.
Donc, voilà, et à la base, on avait SoundCloud.
Et du coup, on était dans
la SoundCloud, c'est gratuit, tu peux écouter.
Okay.
Et ensuite, à plus grande échelle, quand on avait cet EP qui est le premier EP, on s'est dit, c'est vrai que ça peut être sympa et assez stylé de dire, tu peux nous avoir sur Deezer ou Spotify.
Alors, vous faites partie des artistes qui ont une pratique amateur. Alors, juste pour préciser, ce que j'entends par là, c'est-à-dire que c'est une pratique artistique qui n'est pas source de revenus, ou du moins que c'est pas la source principale de revenus.
Heureusement.
le plus gros revenu pour l'instant est à la hauteur de 10 euros.
Voilà, d'accord. Mais il y a deux choses, c'est que vous avez un rapport avec le public, parce que vous faites des concerts et vous diffusez votre musique, et vous avez quand même un souci de qualité qui se rapproche d'une pratique professionnelle d'un art. Et c'est le cas d'une très grande quantité d'artistes, mais pas seulement musique, il y en a aussi en théâtre, en peinture, ou des auteurs de romans, par exemple. Alors, comme j'ai dit en intro, le fait de pratiquer un art en amateur, quand on a un travail élémentaire, une vie de famille, j'imagine que c'est pas toujours facile de trouver du temps pour composer, pour enregistrer, pour se préparer pour un concert. Du coup, vous deux, avec quelle régularité vous vous retrouvez pour travailler?
Justement, t'as un peu tout dit, je pense, en introduction. C'est que on a des périodes où c'est très compliqué de se caler. Donc, comme tu dis, avec la vie familiale,
et tout, les vacances travail. De l'un, les vacances de l'autre.
Surtout que, juste pour préciser, je dévoile très peu de votre intimité, mais vous faites le même métier et vous travaillez sur des horaires atypiques et quand l'un travaille, l'autre ne travaille pas.
En plus,
vous avez cette
contrainte. On a cette contrainte en plus à gérer.
Voilà. Ouais. Donc du coup, c'est irrégulier. C'est-à-dire que des fois, suivant les échéances, vous arrivez à vous retrouver un peu plus, mais des fois, il peut y avoir des grandes périodes sans.
C'est exactement ça.
C'est
ça. Ouais. Alors que quand on a vraiment une échéance proche et qu'on va tout faire vraiment pour se caler des créneaux, on peut se voir plusieurs fois par semaine.
D'accord.
Ouais.
Typiquement, pour le dernier morceau qu'on a sorti, on s'est dit, allez, on se cale les dates, parce que sinon, en fait, on va jamais avancer. Et.
Oui, il faut faire une priorité.
Voilà, à un moment donné, il faut se dire, est-ce que j'arrête ou je continue? Et si je continue, je me donne les moyens quand même de le faire. Ça prend du temps. Et c'est un temps à prendre. C'est quelque chose qui nous passionne. Et du coup, on a envie de continuer à le faire.
Est-ce que vous estimez que la pratique amateur d'un art est une forme de liberté? Parce que finalement, vous n'avez pas de contrat à rendre. Qui que ce soit, vous n'avez pas de pression financière, parce que vous n'avez pas besoin de vivre de ça, il n'y a pas d'obligation de résultat, alors que j'imagine qu'un artiste professionnel qui ne vit que de ça, il peut y avoir une espèce de pression et un stress supplémentaire. Est-ce que vous vivez ça un peu comme une liberté? Ou est-ce que vous, enfin, est-ce que vous l'avez déjà pensé dans ces termes?
Ouais, complètement. Moi, je sais que ça m'apporte beaucoup. Je pense que ça nous apporte beaucoup. Et en plus, c'est quelque chose qui vraiment te permet d'échapper, je trouve aussi, à des fois quand, voilà, t'es pas forcément de bonne humeur. Enfin, tout ce qui peut arriver au quotidien et tout, c'est quand même quelque chose où on a vraiment une liberté, comme tu dis. Et c'est vraiment, je trouve, une passion qui te permet vraiment de déconnecter, quoi.
Ouais.
Ça, je trouve ça génial.
D'accord. Ouais.
C'est vrai qu'on a ce côté libre sur la création, on n'a pas de, on doit pas rentrer dans un moule, et même si si t'as envie un peu de te faire connaître et tout ça, il faut avoir quelques petites bases que tu entends un peu autour de toi, mais on n'a pas cette limite du moule de du genre le label, tel label, il faut toujours sonner comme ça, il faut toujours avoir cette sonorité. Nous, en fait, on fait un peu ce qu'on veut, on se dit, ben, nous, on aime bien, du coup, si nous, on aime bien, c'est déjà pas mal.
Ouais. Et à contrario, si je peux rajouter un truc dessus, c'est que, par contre, quand on s'est mis des contraintes, donc ce qui correspond peut-être plus à un milieu pro, on voit quand même qu'on est beaucoup plus productif, je trouve, quand on a des contraintes. Donc, c'est un peu un entre-deux, finalement. C'est vraiment une liberté, mais je pense que c'est aussi, ça peut être un gros piège.
Ça, de pas avoir ça cadre, de deadline. Ça cadre un peu.
C'est,
le...
c'est un thème qu'on aborde énormément dans nos épisodes à Créodyssée, le trop de liberté, en fait, tue la création et on a besoin de se mettre des, alors c'est des contraintes pas comme des bornes, mais comme un canevas qui nous permet de se guider.
Il faut pas aller trop loin.
Voilà.
Mais faut pas, voilà.
Oui. Est-ce que vous pensez, à contrario, que votre pratique amateur a des conséquences notables sur la qualité de votre production? Autrement dit, est-ce que vous pensez qu'avec plus de temps et plus de moyens, vous auriez des axes de progression inatteignables à l'heure actuelle? Alors je pose cette question tout en pensant, enfin moi à titre très personnel, je trouve que votre résultat final n'a rien à envier à des c'est très gentil. Bonnes. Non mais c'est voilà, sinon j'aurais pas organisé un épisode comme ça, mais bon ça reste quand même de la musique en amateur, donc j'imagine il y a toujours des axes de progression.
Ben, c'est, je pense qu'il y a forcément des axes de progression. Par exemple, si on prend si je prends mon passif, mes premières covers sur YouTube, j'ai envie de les remasteriser parce qu'en fait, quand j'entends, je me dis, mais j'étais content de ça à l'époque et maintenant, quand j'entends ce que j'arrive à faire, je me dis, mais il y a tout un travail à refaire. Et rien qu'entre notre premier EP et le dernier single qu'on a sorti, il y a un gain de qualité et qui s'est senti. Et sur le premier EP, on était là, ben tiens, c'est bizarre, celui-là, il sonne un peu moins bien que les trois autres. Et peut-être qu'on aurait pu faire un petit truc en plus pour l'améliorer. Et je pense que, à part, peut-être qu'en effet, à part être ingé son, on n'arrivera pas à cette qualité pure un peu du son. Mais on a envie de tout faire pour, parce que ben, on n'a pas envie de diffuser quelque chose qui est un peu bâclé, qui est un peu...
Après, je trouve que, même par rapport à certaines productions pro, c'est vrai que, juste vraiment objectivement, dans le traitement du son, on n'a pas forcément à leur envier, à certains pros, notre traitement du son, parce qu'en plus, le fait d'avoir beaucoup de temps, aussi, finalement, il y a des morceaux qu'on a retravaillé, jusqu'à... En fait, c'est pas pour dire pour nous, mais même pour des amateurs en général, je pense que c'est possible d'avoir une qualité pro, en tant qu'amateur. Par contre, je pense que ce qui nous a desservi, c'est en fait des règles de base que les pros ont. Je sais pas si c'est de fait de leur réseau ou de leur formation, mais qu'on a eu très tard.
Ah oui.
Et du coup, des règles de base vraiment qui vont changer le son de manière qu'on va pouvoir ressentir, quoi. Et ça, qu'on a eu tard, du coup. Moi, je dirais que c'est plus ça.
Ben, si pour illustrer, par exemple, ce que raconte Samy, c'est que sur le dernier morceau, on était prêt, on était peut-être à 5 minutes de le diffuser, de cliquer sur entrée pour machin. Et là, il me fait, attends, la dernière fois sur YouTube, j'avais vu que c'était intéressant d'écouter en mono, des fois que sur nos auditeurs, du peu d'auditeurs qu'il y a, s'il y en a un qui écoute en mono, qu'il ait au moins de la bonne qualité.
Pour préciser, en mono, c'est par exemple si vous écoutez sur une enceinte Bluetooth où il y a un seul haut-parleur.
Voilà. Et stéréo, du coup, là, c'est avec deux haut-parleurs qui donnent une spatialité un peu du son. Et en fait, sur le logiciel, on active le mode mono et on avait perdu toute la dynamique du morceau.
Ah oui.
Et là, on était un peu sur le cul.
Ouais.
Désolé pour le vocabulaire. Ouais. Mais
vous étiez étonné.
Voilà. Et on se demandait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on a raté? On s'est rendu compte qu'il y avait un bout de son, en fait, qui sonnait très mal. Et il a fallu le retravailler. Et je pense que, comme dit Samy, si on avait eu un peu ces bases qu'aurait un pro, un G-son.
Oui, il n'y aurait pas eu l'erreur.
Oui, voilà, il n'y aurait pas eu cette erreur de base.
Ouais, ouais.
Après, voilà, comme tu l'as dit un peu en introduction, c'est l'erreur qui fait qu'on s'améliore tout le temps.
Oui.
Et toutes les erreurs par lesquelles on est passé, certes, nous ont fait perdre du temps, mais maintenant nous font gagner un peu de temps sur certains points de la production.
Alors moi, j'avais eu cette discussion avec un ami qui est musicien, donc professionnel pour le coup, qui est batteur dans la région, et lui, il estimait qu'il n'y avait pas de différence, enfin lui, il ne considérait aucune différence notable entre un musicien amateur ou un musicien professionnel. Pour lui, c'était l'existence d'une fiche de paye ou non, parce qu'il avait été amené à rencontrer des musiciens professionnels qui avaient une pratique assez médiocre, alors que d'un autre côté, il avait rencontré des musiciens amateurs qui faisaient quelque chose de qualité, parce qu'il y avait une intention à partir du moment où ils se présentaient devant un public, quel que soit le support, ils estimaient qu'ils devaient fournir quelque chose de complètement qualitatif. Et donc, comme je disais en introduction, voilà, j'avais déjà une idée de ma réponse, mais je referme ma parenthèse personnelle, sauf si vous voulez rebondir dessus.
Moi, je veux bien rebondir vite fait dessus, mais c'est sur le côté DJing.
Oui.
C'est que pour le peu de période où on en a fait beaucoup, du DJing d'affilée, je me rends compte que si on devait faire ça pour en vivre, la fatigue, déjà, ce serait un gros élément qui serait différent.
Ouais.
C'est-à-dire que nous, on a la chance de pouvoir faire des grands breaks, puisque au final, on s'en fiche d'avoir... une échéance, des échéances régulières. Mais par contre, je vois très vite que ça peut être le DJing très fatigant, un métier très très fatigant. Ah oui. Donc rien que ça, est-ce qu'on a la même énergie quand c'est le troisième soir d'affilée ou même le troisième fois de la semaine? Je pense que,
oui,
voilà,
c'est vrai que
ça fait une différence.
Le fait de faire des concerts peu souvent fait que à chaque fois qu'on fait un concert, on peut se donner vraiment peut-être beaucoup plus
souvent.
À fond,
on est ultra motivé à chaque fois qu'on
voilà, c'est ça. Il n'y a pas la routine, il y a tout ça. Ouais, ok. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans la diffusion de votre musique? Ou alors déjà, est-ce que vous êtes par rapport à ce que vous avez fait pour l'instant, vous êtes en recherche d'une plus large diffusion?
Après, on aimerait quand même toujours avoir plus de d'impact
plus
et tout,
de gens. Ouais.
C'est plus, c'est pas vraiment un objectif, je dirais,
non,
pour nous.
Parce qu'après, ça implique, radio, ça implique du temps de démarchage,
de
réseautage, réseaux sociaux, d'envoyer des messages. Mmh. D'accord. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui vous...
On aimerait bien, un peu comme on disait tout à l'heure, avant l'interview, d'envoyer des messages, voilà, rien qu'aux radios un peu locales, histoire de diffuser, se faire connaître un peu, mais sans non plus se mettre la pression sur « j'ai à tout prix envie de me faire connaître ».
D'accord. Pareil, la recherche d'un label professionnel ou semi-professionnel, c'est pas quelque chose que vous
pas
envisagez pour l'instant.
Si on nous démarre, on sera content.
Ou après, ça peut être aussi la recherche de festivals ou de scènes un peu plus larges, ou voir une résidence dans un endroit type le lieu. Non, c'est pas forcément des choses que...
Bah après, on a eu un petit peu ça à travers des concours qu'on a pu faire, parce que là, on en a fait quand même... on commence à en avoir fait quoi 4 ou 5 des concours assez assez importants quand même, où sur certains on a été un petit peu remarqué quand même.
D'accord.
Donc ça, c'était vachement positif, forcément c'est flatteur aussi. Et du coup, on a peut-être ce côté-là où on commence à nous parler et on nous dit ah, je pense à vous si jamais il y a tel événement et tout. Mais voilà, c'était pas forcément recherché de base, mais après dans le concours, c'est toujours, de toute façon, c'est toujours intéressant de faire aussi pour le concours.
Pour la
sûr.
Création musicale, en fait, typiquement, Lotus, qu'on a pas sorti, qu'on aimerait peut-être bien sortir à un moment, ce qui est, où c'était un sample de harpe, qui était organisé par la cartonnerie. Et en fait, il fallait.
Le don du sample.
Le
don du sample initié par Mila Marina.
C'est ça,
voilà, c'est ça.
Exactement. Et du coup, Samy en avait entendu parler, il m'a dit ça te chaufferait qu'on le fasse ensemble. J'étais très honoré qu'il me demande, parce que lui, en fait, quelquefois, il a plus de temps. Moi, j'en ai pas forcément tout le temps. Du coup, il aurait pu le faire tout seul. Et du coup, en fait, il a commencé une base. Et après, on s'est rencontrés. Et on est allé au bout de ce concours. Et on l'a présenté. Et un peu de nulle part, on pensait que c'était fini et tout ça. On voit qu'on est tagué par sur Instagram, du coup, par notre ancien prof, Boréal,
ouais,
et qui nous met « Fier de vous, les gars
!»
Nous, on avait oublié, et en fait, on regarde, et on avait gagné, et on avait fait partie des trois nominés pour un des prix, et c'était le prix de la qualité, justement.
Ouais.
On avait eu le prix de la qualité du
son.
Très de bien. La production, et du coup, on avait eu une interview avec un... C'était quoi, le directeur commercial, je crois,
ouais,
de la carto,
de la cartonnerie, ouais.
Et qui nous a dit, ce qui les a vraiment marqués, c'était justement ce côté pro de la production, et ils avaient été vraiment très, très surpris, et ils avaient beaucoup aimé la qualité du son.
Fier,
ouais. Du coup, nous, on était assez fiers de...
Carrément.
Selon la tradition créodicéenne, je vous ai demandé de nous faire découvrir un artiste ou des artistes que vous souhaitez mettre à l'honneur. Alors, est-ce que vous avez fait un tir groupé, un choix séparé ? Dites-nous tout.
On a fait un choix séparé.
Séparé,
Samy.
Tu veux que je commence ? Allez. Bah moi, j'ai cherché au début, je cherchais pas forcément dans la musique, comme tu m'avais demandé. Mais en fait, je suis trop... je suis seulement concentré sur la musique.
T'es
donc
accro.
Je suis accro,
mon pauvre.
Je suis accro. Donc voilà, ça sera un guitariste qui s'appelle Antoine Dufour, qui est pas forcément connu, je dirais, en France, mais je pense qu'il est quand même un peu connu sur les réseaux, sur YouTube, tout ça. Moi, j'aime beaucoup la façon dont il joue de la guitare. En plus, dans ses vidéos, il accroche toujours quelque chose à sa guitare. Je trouve qu'il y a un petit côté, pour chaque chanson qu'il fait, il accroche un truc différent. Bon, voilà, c'est la petite touche. Mais sinon, ouais, il a une manière de jouer de la guitare que j'aime beaucoup, avec beaucoup, pour ceux qui connaissent, d'harmonique, de tapping et tout, mais sur une guitare acoustique. Donc un son voilà, que j'aime... J'aime beaucoup, je trouve ça très poétique.
D'accord.
Donc, monsieur Antoine Dufour.
Antoine Dufour, d'accord.
Voilà.
Et toi, Eva ?
Alors moi, du coup, j'ai hésité avec beaucoup, beaucoup d'artistes, pareil, de la musique.
Ça tombe bien, on a à peu près 30 heures devant nous pour finir l'épisode, donc tu peux te lâcher.
Et entre ceux qui m'ont inspiré à faire de la musique au début, ceux qui m'ont inspiré à l'électro, et j'ai fini par choisir... un artiste français, Overwork, qui fait de l'électro, que j'ai beaucoup aimé parce qu'il avait un peu ce côté qu'on a un peu retrouvé un peu sur ce qu'on fait aussi. C'est pas de l'électro juste du boom boom, il rajoute une partie un peu symphonique avec du violon, avec du piano et une mélodie qui, enfin, et à mon goût en tout cas, assez agréable à écouter. Et il a un peu, voilà, selon ses albums, il a des albums un peu plus rétro, un peu plus boom boom, un peu plus...
Un Un grand merci à tous les deux, un très grand merci pour ces éclairages passionnants, et on espère vraiment que vos projets créatifs prendront vraiment toute l'ampleur qu'ils méritent. Les intermèdes musicaux de cet entretien étaient constitués de morceaux de Sierra Hotel que vous pouvez retrouver sur les plateformes de streaming. Quelques liens magiques en sous-texte de l'épisode guideront utilement vos oreilles pour écouter leur musique. Vous pouvez nous écrire au mail du podcast Créodyssée, CRODY2S@gmail.com ou via notre page Facebook. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez-le largement sur vos réseaux, cliquez sur les étoiles partout où vous en trouverez et sans aucune restriction, les algorithmes adorent et nous encore plus. À très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, restez curieux. Ciao.
Merci Eric.
Merci Eric.